Bonjour à toutes et tous et merci pour votre présence à la librairie aujourd'hui pour la deuxième séance de nos pépites pour l'année universitaire 2025-2026, toujours en partenariat avec les étudiants de l'ENS, bénévoles à la Web Radio Transistor. Aujourd'hui, nous recevons Delphine Antoine Mahut, professeure d'histoire de philosophie moderne à l'ENS de Lyon, rattachée à l'IRIM. Vos recherches portent sur Descartes et le cartésianisme, l'historiographie de la philosophie moderne, les interactions entre métaphysique et physiologie. Nous aurons le plaisir de vous écouter en dialogue avec Smila Thorin et Lise Véran, toutes deux élèves en M1 de philo.
Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler de l'ouvrage collectif « Qu'est-ce qu'être cartésien ?» publié en 2013 et dirigé par Delphine Antoine Mahut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un ouvrage qui cherche à répondre à la question de la spécificité du cartésianisme dans l'histoire des idées, depuis Descartes jusqu'à aujourd'hui.
Avant tout, on peut se poser peut-être quelques minutes sur le titre. Dans le langage courant, être cartésien, c'est être particulièrement rationnel ou rigoureux dans ses raisonnements, c'est prendre des décisions avec du recul, etc. Comment est-ce que ce sens-là peut rentrer en tension avec l'usage qu'une historienne de la philosophie peut faire de ce terme ?
Alors, il entre en tension avec la pluralité des usages qui en ont été faits par la multiplicité des lecteurs de Descartes de son vivant jusqu'à aujourd'hui. Et cette image d'un cartésianisme rationaliste, épuré, dualiste, qui est passé dans le canon des humanités, est le produit d'un certain nombre de filtres qui ont sélectionné cette facette particulière de cette philosophie pour en faire effectivement une sorte de très distinctif, en dépit de toutes les déformations successives causées par les flots de ses réceptions.
Donc c'est un terme qui a l'air de plus se poser sur une méthode que sur un contenu. Qu'est-ce que c'est qu'être cartésien ? C'est plutôt cette méthode ou c'est plutôt le contenu ?
Alors, ça dépend. Si on considère que pour définir ce que c'est qu'être cartésien, il faut se référer à l'auteur d'origine ou bien à ceux qui l'ont lu. Et ce qui caractérise la grande diversité des réceptions de Descartes, c'est précisément la diversité des sélections qui ont été opérées par ses lecteurs dans la philosophie cartésienne pour la désigner rétrospectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la raison, pas forcément le terme en isme qu'on lui associe, celui de rationalisme, ce qui est sûr, c'est que la raison reste un marqueur cartésien dans la grande diversité, on va dire, de ses réceptions.
Donc votre ouvrage, comme vous venez de le dire, se concentre plutôt sur les maintes réceptions de Descartes, sur les figures de Descartes présentes dans la philosophie après Descartes lui-même. Est-ce que se demander qu'est-ce qu'être cartésien, c'est se demander comment on a été cartésien dans le temps ?
Oui, c'est se demander comment on a pensé l'être et de quelle bonne manière on a pensé l'être, mais c'est aussi inclure l'ensemble des critiques de cette manière d'être. C'est-à-dire qu'une étiquette comme celle-là est le produit d'un ensemble d'interactions polémiques qui donc peuvent avoir aussi une lourde charge critique et qui prennent sens dans des débats donnés, dans des contextes donnés, pour répondre à des questions présentes. Donc être cartésien, ça peut être au bon ou au mauvais sens du terme.
À présent, je vais vous poser quelques questions sur la ligne directrice de l'ouvrage et votre méthode. Alors tout d'abord, quelles étaient vos motivations pour publier un tel ouvrage en 2013 et quelles sont les raisons pour lesquelles il est encore utile de le lire aujourd'hui ?
Alors mes motivations pour rassembler des acteurs si variés sur une période si longue autour d'une telle question proviennent du fait que au moment où j'ai organisé ces séminaires en arrivant à l'ENS de Lyon, puisque l'ouvrage a été publié quelques temps après, mais il y a eu quelques années de séminaires avant. On envisageait beaucoup en histoire de la philosophie moderne ce genre de questions comme étant à poser en termes de fidélité ou d'infidélité par rapport à un corpus d'origine à propos duquel on serait supposément compétent pour dénicher un sens vrai et par rapport à ce sens vrai, l'ensemble des autres seraient des hérétiques ou des gens qui ont mal lu Descartes. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était pas tant ça, même si, bien sûr, ça reste au fond des questionnements, hein, de savoir si la figure qu'on construit d'un cartésien démocrate ou beaucoup plus élitiste, par exemple, est fidèle ou infidèle, ça reste une question sous-jacente. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était les usages constants dans l'histoire des réceptions du cartésianisme jusqu'à aujourd'hui du nom de Descartes et ce à quoi ce nom de Descartes avait été associé, toujours dans un contexte présent, polémique et brûlante, pour répondre à des questions dont les acteurs qui leur investissaient étaient les contemporains. Donc l'idée de départ, c'était celle-là. Et je dois dire que à la fois, ça a pu fédérer beaucoup d'énergie de collègues qui trouvaient ça extrêmement intéressant et original, et en même temps susciter aussi un certain nombre d'incompréhensions, y compris de la part de certains ou de certaines de ceux que j'avais sollicités dans un premier temps, qui se demandaient si, par rapport à leur corpus, qui pouvait être éloigné dans le temps de Descartes, il s'agissait d'expliquer si ou pas, si les acteurs sur lesquels ils avaient jeté leur dévolu lisaient correctement ou pas ce texte, les textes de Descartes. Donc une fois qu'on a commencé à s'émanciper un peu de cette exigence, on a pu commencer à se retrouver méthodologiquement sur tous ensemble, quelle que soit notre formation d'origine, puisqu'il n'y a pas que des philosophes dans l'ouvrage, et à se poser une question commune qui effectivement est structurée par une façon de travailler notre objet qui était peu commune à ce moment-là.
Ok, d'accord, très bien, merci. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, je vais ressortir une citation de l'introduction que vous avez écrite de l'ouvrage. On peut parfaitement revendiquer la neutralisation des exigences de continuité textuelle entre l'invention et la source originelle et tenter de penser des Descartes ad hoc, voire des cartésianismes sans Descartes, étant donné qu'une telle entreprise aura toujours, en retour, quelque chose à nous apprendre sur le corpus d'origine. Alors, je vais d'abord poser une première question sur cette citation. Penser la pertinence des Descartes ad hoc, c'est-à-dire des pensées cartésiennes telles qu'elles sont présentées par tel ou tel auteur ou autrice, en faisant fi du degré de ressemblance avec le corpus, source, est-ce que, quelque part, ce ne serait pas signer la mort de l'auteur, d'une certaine façon ?
Alors, d'abord, l'expression Descartes ad hoc, elle n'est pas de moi, mais je la reprends à François Azouvi, qui a fait sur ces questions-là un ouvrage pionnier qui s'intitule « Descartes et la France, histoire d'une passion nationale ». C'est un ouvrage qui est paru en 2002. Et la particularité de François Azouvi, c'est d'être, à la base, j'allais dire, un excellent historien de la philosophie moderne. C'est même l'éditeur des œuvres complètes de Maine de Biran, etc. Et puis, à un moment donné, il s'est mis à travailler dans une autre perspective qu'il a désignée comme étant celle d'une histoire philosophique des idées, et a revendiqué l'intérêt pour les historiens de la philosophie moderne y compris de prendre au sérieux ces objets nouveaux qu'étaient les Descartes, de Tocqueville, de Thorez, de qui vous voulez, enfin jusqu'à aujourd'hui, puisque le nom de Descartes est massivement présent dans tous les débats contemporains, en neurosciences, en écologie, etc. Bon. Et donc il a désigné par là non seulement de nouveaux objets, mais une nouvelle façon de le travailler. Et par conséquent, cette façon de faire a pu apparaître pour des historiens de la philosophie travaillant de manière plus classique, assez clivante, et a suscité des débats sur l'intérêt pour les historiens de la philosophie, ici moderne en particulier, de prendre en charge, on va dire, non seulement l'histoire des réceptions, mais également ce qu'on pourrait désigner comme étant autant d'actualisations dans des contextes toujours différents et avec beaucoup de déformations par rapport à l'auteur d'origine, un certain nombre de questions mobilisant le nom de l'auteur. Je crois que les choses ont un petit peu avancé aujourd'hui et qu'on est un certain nombre à comprendre un peu mieux, enfin moi je le revendique, mais on est un certain nombre, un nombre plus large à comprendre un peu mieux de quelle manière et pourquoi travailler sur ces réceptions aussi déformées soient-elles, a toujours quelque chose en retour à nous apprendre sur l'auteur d'origine. C'est-à-dire que quels que soient les déformations, elles ont pour particularité de mettre le doigt sur un aspect, de l'isoler du reste parfois, de le grossir. Elles mettent le doigt sur un aspect de la philosophie de l'auteur qu'on n'avait pas vu du tout, pas vu comme ça auparavant. Et travailler sur l'histoire des réceptions, des actualisations, c'est toujours faire un mouvement de va-et-vient entre notre présent, ou le présent de celui qui se rapporte à cette figure dans une perspective donnée, et puis le passé de l'auteur d'origine.
On aimerait aussi vous poser la question enfin de comment ça se passe que de diriger un ouvrage collectif. C'est quoi en fait concrètement le processus de sélection des auteurs, d'édition, etc.
Alors il y a plusieurs critères. Hein, il y a celui de la variation, de la variété, non seulement des questions abordées, des champs disciplinaires, mais il y a aussi celui de j'ai oublié des périodes aussi, puisque là l'idée c'était d'aller du vivant de Descartes jusqu'à la période contemporaine. Mais pour que ça puisse faire un véritable collectif, et c'est parfois la difficulté, surtout quand on est nombreux en fait dans un collectif. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous réunisse, qui nous rassemble et qui fasse son unité. Donc ici, l'unité, elle n'est pas produite par des contenus, mais elle est produite par une méthode, ou en tout cas par une interrogation méthodologique, celle de qui concerne, on va dire, l'histoire des réceptions et des actualisations et la manière dont on peut lier cette façon de travailler nos interrogations plus classiques d'histoire de la philosophie, des sciences, de la littérature, des arts.
Une question assez générale, mais on sait que Descartes est véritablement un canon des humanités aujourd'hui et qu'on peut avoir l'impression peut-être des fois qu'il n'y a plus rien à en dire après tant d'années, tellement de choses ont été écrites sur lui. Mais que peut-on, que doit-on encore travailler de Descartes? Est-on voué à ne travailler que sur les réceptions, ou alors le texte a-t-il des parts d'ombre qu'on pourrait éclairer?
Alors, une des particularités, on va dire, de la philosophie de Descartes, c'est incontestablement, quoi qu'on en pense par ailleurs, d'avoir suscité dès son élaboration et jusqu'à nos jours, et sans discontinuité, tout un ensemble de discours en pro ou en contra sur cette philosophie. Le nom de Descartes est encore aujourd'hui massivement présent dans les discours contemporains, y compris de manière très critique. Hein. Prenons par exemple les discours sur la crise écologique aujourd'hui. Il est clair que le nom de Descartes devient le responsable, on va dire, ou le marqueur, on va dire, de cette crise écologique, et le marqueur d'une modernité dont il convient aujourd'hui de s'émanciper et avec laquelle il convient de rompre. Hein, c'est tout le Descartes des dualismes, des grands partages, du maître et possesseur de la nature. D'ailleurs, on oublie le comme maître et possesseur de la nature. Et donc, cette philosophie-là, elle a cette particularité, et il n'y en a pas tant que ça, qui l'ont. Je serais presque tentée de dire que c'est une particularité du cartésianisme que cette constante-là.
Que pour les futures chercheuses, qu'on pourrait aller explorer?
Voilà, alors du coup, travailler sur le cartésianisme aujourd'hui, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier revenir au texte originel, dans des perspectives extrêmement techniques et classiques, philologiques d'élaboration des textes, par exemple. Il y a encore beaucoup de travail à faire en ce domaine, de traduction, etc. Ça peut signifier aussi travailler sur la très grande diversité de ces réceptions, puisque entrer, par exemple, dans le 19e siècle français par le nom de Descartes, c'est travailler sur toute l'institutionnalisation du canon philosophique qui nous est parvenu, sur ses marges, etc. Travailler sur le cartésianisme, c'est travailler sur toutes les actualisations successives du nom de Descartes dans des contextes différents pour penser des problèmes du présent pour les acteurs qui les ont mobilisés. Là, j'ai pris l'exemple de la crise écologique, mais à chaque période, en fait, ce nom de Descartes a été associé à des questions absolument présentes pour celles et ceux qui le mobilisaient. Et puis, plus largement, travailler sur le cartésianisme, c'est travailler de manière problématique, critique, réflexive sur le façonnage de notre société moderne, dans tout ce que ce terme a à la fois de porteur, de peut-être réjouissant, mais aussi potentiellement aussi de pas réjouissant du tout. Et donc, c'est nous donner un certain nombre d'armes critiques pour essayer de mieux comprendre d'où on vient, qui on est et comment on peut aborder ensemble la suite des événements.
Comme dernière question, je voulais vous demander si vous avez rencontré des difficultés théoriques ou pratiques en dirigeant cet ouvrage.
Alors, on a toujours des... Alors, je ne sais pas si on pourrait dire des difficultés, en tout cas des motifs de perplexité et puis des raisons de rediscuter entre nous et de remettre un certain nombre de choses sur la table ou d'essayer de les clarifier. Oui, beaucoup, parce que cette interrogation, une fois encore, n'allait pas nécessairement de soi. Certains collègues étaient un peu décontenancés parfois d'être sollicités avec ce genre de questions, parce qu'ils se demandaient en fait ce qu'on attendait d'eux. Je vais prendre un exemple tout simple qui n'est pas dans l'ouvrage pour le coup, mais qui est un exemple un exemple contemporain. L'erreur de Descartes de Damasio. Comment on travaille sur l'erreur de Descartes de Damasio quand on est historien de la philosophie moderne? Il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus classique, c'est de dire « Ah, Damasio a mal lu Descartes. C'est pas bien, c'est un infidèle. Il ferait mieux de revenir au texte d'origine. » Et du coup, du point de vue de l'histoire de la philosophie moderne, ça n'a pas un grand intérêt. Ce n'est pas la perspective de l'ouvrage. La perspective de l'ouvrage, elle consiste à se demander de quoi Descartes est le nom dans l'ouvrage et dans la perspective qui est celle de Damasio. Et éventuellement, en quoi est-ce que on pourrait, en quoi ça se rattache aux problématiques présentes des neurosciences, des sciences cognitives? Qu'est-ce qu'on va puiser chez Descartes en pro ou en contra pour alimenter des débats contemporains? Et éventuellement, peut-être aussi, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher dans les textes cartésiens qui n'est pas mobilisé par l'auteur en question, mais qui pourrait alimenter autrement ses propres réflexions? Voilà le genre de questions qu'on s'est posées. Et on voit bien qu'on peut travailler sur un même objet ou sur une même question de façon très différente. Et que ce qui importe ici, c'est la méthode, en fait, qui produit évidemment des résultats qui sont différents dans les deux cas.
Merci beaucoup. On va passer la parole au public si certains d'entre vous ont des questions.
Merci pour votre intervention. Et c'est vrai que dans l'ouvrage qui suscite la curiosité du lecteur, c'est comme vous l'avez dit, il y a une pluralité d'auteurs qui travaillent, qui mentionnent leurs propres objets d'études. Et quand on voit justement qu'il y a pléthore d'auteurs, de philosophes, mais aussi Molière par exemple, mais par rapport aux philosophes, est-ce que finalement, quand on est philosophe français, on doit se positionner par rapport à Descartes? Et donc est-ce que le fait d'être cartésien implique une attitude à avoir chez tous les philosophes français, qu'on se place pour ou contre Descartes? Donc, est-ce qu'on retrouve cette filiation finalement qui est comme une sorte d'ombre de la philosophie française dont on n'arrive pas à se détacher?
Alors c'est une excellente question, et puis c'est le point de départ de l'ouvrage de François Azouvi, son point d'arrivée aussi d'une certaine façon, parce que quand il dit Descartes et la France, histoire d'une passion nationale, il essaye d'expliquer les raisons pour lesquelles ce nom de Descartes a été omniprésent, alors pas seulement en France, mais de manière particulière en France, depuis trois décennies maintenant, comme si, au fond, en effet, on ne pouvait pas prendre position philosophiquement sans se déterminer en pro ou en contra par rapport à cette philosophie. Il se trouve que le contexte français a cette particularité, en tout cas philosophique, qu'au XIXe siècle, donc la stature omniprésente, écrasante, autoritaire de Victor Cousin, a institutionnalisé, on va dire, cette philosophie dominante que fut le spiritualisme français, en se plaçant sous l'étendard de Descartes et en le faisant d'une manière tout à fait réductrice et particulière, et c'est celle-là qui est passée dans le canon philosophique. Donc on est très marqué, on va dire, en France par cette figure-là. Un des enjeux pour les historiens de la philosophie moderne, qui sont soucieux de comprendre comment le canon des humanités a été façonné et qui sont aussi soucieux de travailler à ces modifications, y compris dans la manière dont on enseigne, c'est de le pluraliser aussi par les figures canoniques, et pas seulement par ces marges ou par celles et ceux qu'on voudrait y faire entrer, qui ont été invisibilisés et avec lesquels on souhaiterait aussi le pluraliser. Donc oui, il semble en tout cas que les uns et les autres aient bien du mal, y compris sur un plan tout à fait critique et hostile, à se positionner dans l'espace public sans faire référence au nom de Descartes. Je peux reprendre l'exemple du discours écologique contemporain. Si j'ai été amenée à m'y intéresser, c'est parce que ce discours mobilise en permanence non seulement la modernité, mais le non-nom Descartes, au point qu'on parle aujourd'hui de Descartocène. Donc en tant qu'historienne de la philosophie moderne travaillant sur le cartésianisme, ça m'intéresse.
J'aurais une question sur l'importance de votre méthode quand on a une approche instrumentaliste, on va dire, de l'histoire de la philosophie. Que ce soit par exemple dans l'exemple que vous donnez du style de Damasio sur l'erreur de Descartes pour se positionner vis-à-vis d'une figure, ou dans des questions, on va dire, éducatives pour permettre, pour expliquer la philosophie, c'est assez utile d'avoir des figures un peu idéales, typiques, qui permettent de cerner des oppositions philosophiques classiques. La question que je me posais, du coup, c'est est-ce que votre but... c'est d'essayer, en cernant les différents Descartes qui sont mobilisés, d'essayer d'amener les gens à revenir aux Descartes originels ou à préciser quels Descartes ils mobilisent, quelle réception ils utilisent. Ou est-ce que vous êtes juste dans un objectif de clarification et vous n'êtes pas partiellement dérangé par le fait que les gens utilisent le nom de Descartes, par exemple, sans préciser la réception à laquelle ils font référence ou en se trompant un peu sur la figure qu'ils utilisent.
Alors, moi, je ne suis pas du tout dérangée. Non seulement je ne suis pas du tout dérangée par ça, mais je trouve ça intellectuellement absolument passionnant. Je ne suis pas dans une perspective de réhabilitation. Malebranche a très bien décrit les membres de la République des Lettres qui étaient entêtés par leur auteur et qui, quand on attaquait leur auteur, se sentaient personnellement attaqués. Non, moi, je ne suis pas du tout dans cette perspective-là. Ce qui m'intéresse plus, c'est de travailler sur le façonnage, en fait, d'un réseau d'arguments dans des débats polémiques pour comprendre, en fait, des questions présentes. Et par effet retour, j'allais dire, ce qui m'intéresse, c'est de réouvrir ce que j'ai appelé ailleurs les histoires possibles du cartésianisme, c'est-à-dire... de revenir en fait à ce que cette philosophie permet en termes de lecture et d'appropriation à la fois très différentes les unes des autres, parfois même opposées entre elles, et néanmoins toutes reliées par quelque aspect à la philosophie d'origine dont elles reprennent quelques aspects en fait. C'est cet aspect-là qui m'intéresse plus particulièrement.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va déjà merci à ENS Édition de nous avoir accueillis. C'est toujours un plaisir de faire ce partenariat. Merci beaucoup Delphine Antoine Mahut pour cette présentation très éclairante. Et le podcast va bientôt être publié sur Transistor. N'hésitez pas à le réécouter.